Voilà, donc je pense qu'on aura l'occasion de voir demain aussi comment, dans ce mouvement des mutineries, il y a deux aspects. L'un ayant tendance souvent à vampiriser l'autre, qui est le mouvement des mutineries à proprement parler, et la question de la répression et des fusillés. Et moi, je voulais revenir sur le premier aspect en rebondissant sur une question qu'a posée Éric Soriano, et dont Jean-Louis Robert nous a dit qu'il avait des choses à dire là-dessus. Donc je voulais lui donner l'occasion de les dire, et puis demander donc à tous les auteurs en quoi, donc pour reprendre les termes de la question d'Éric Soriano, en quoi ils voyaient à travers ce qu'ils avaient étudié. Les mutineries en tant que mouvement social, en tant que mouvement.
Moi, j'aimerais revenir sur la question posée par Philippe Oliveira, parce qu'il me semble qu'elle mérite d'être prise au sérieux, la question du mouvement social. Est-ce que les mutineries sont un mouvement social? Qu'est-ce que ça veut dire de les appeler comme ça? Et est-ce que mouvement social, ça veut dire forcément grève? Et quel sens on donne à ces termes? Personnellement, je serais assez sceptique sur le terme de grève, ou en tout cas, je dirais qu'il faut l'accompagner de sérieuses réserves, dans la mesure où on a, comme on vient de le dire, un mouvement social qui expose à une répression d'une très grande force et qui implique un risque vital. Et les grèves sont légales en France depuis un certain temps, même si on sait qu'elles impliquent des risques dans certains contextes, là, on a quand même un événement dans le cadre militaire où on sait qu'on fait des actions qui sont complètement illégales, non seulement illégales, mais qui sont aussi à contre-courant de l'ensemble du discours dominant et de l'ensemble du conformisme attendu par la société anglo-saxonne. Donc, il me semble que parler de grève, c'est peut-être ramener l'événement à quelque chose qui pourrait être routinier, répété ou déjà fait. Hein, une grève s'appuie sur des grèves précédentes ou des grèves existantes dans d'autres entreprises, dans d'autres corps de métier, alors que là, il me semble qu'on a un événement qui est quand même assez inédit, et inédit pour les participants eux-mêmes. Et à mon avis, c'est en ce sens-là que le prendre comme un mouvement social peut être intéressant, parce que ça en fait plus une révolte seulement militaire, ça ne fait pas une grève étroite, ça en fait finalement un mouvement dans lequel bah, chaque acteur va investir potentiellement un sens tout à fait différent. Et à mon avis, il faut pas qu'on limite ou qu'on essaie de limiter les mutineries à un sens, hein, comme on aurait pu vouloir le faire en disant les mutineries sont pacifistes. Et puis les mutineries sont tout sauf pacifiste, ce qui est un peu la thèse de Pedroncini. Et puis les mutineries sont une grève, ou sont simplement un exutoire de la colère des soldats. À mon avis, tout ça peut coexister, évidemment, suivant les acteurs et suivant les lieux. Et là aussi, si on ne pense pas les mutineries comme seulement une série d'actes, mais un temps plus général de l'action, ben on se rend compte que dans ce temps de l'action, beaucoup de choses deviennent possibles. Deviennent possibles dans les cantonnements, où on va manifester, deviennent possibles même à Paris, ou en permission, où on va avoir une liberté de parole plus grande, deviennent possibles dans les trains, dans les gares, où on va se livrer à des désordres, à des pillages, à des formes de charivari qui peuvent être rapprochées. Donc, c'est en ce sens-là que l'idée de mouvement social, à mon avis, est la plus large peut-être. C'est peut-être le terme le plus englobant, le plus large, qui permet de prendre en compte les différentes dimensions des mutineries.
L'autre partie, les grèves. Alors, en quoi ce mouvement, à mon sens, est un mouvement de grève? Alors, je le place pas sur le plan légal ou illégal, puisque même maintenant, on voit, il y a des grèves, tantôt elles sont légales, tantôt elles sont illégales. Un mouvement de grève, j'ai été confronté souvent dans ma carrière à des mouvements de grève. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est que d'abord, il y a une revendication, il y a une attente qui est cachée. Ensuite, il y a un facteur déclenchant. Le facteur déclenchant, ça peut être très peu de choses. Donc le facteur déclenchant produit la grève, et il y a un premier temps de la grève où vous avez une revendication tout azimut. C'est-à-dire, on a du mal à faire le tri, c'est là où on le voit très souvent dans les mutineries, et ensuite ça se régularise et on va cerner un peu plus les revendications. Et donc, à mon sens, c'est en cela qu'on est face à un mouvement de grève.
Je voulais revenir sur la question des mouvements sociaux en disant deux tout petits mots. Si les mutineries peuvent être un mouvement social ou une action collective en tout cas, c'est évidemment du point de vue de leur forme, et peut-être par rebondir aussi sur ce que disait Éric Soriano de l'emprise institutionnelle de l'armée. Ce qui est fascinant dans les livres sur les mutineries de Guy Pedroncini ou de Denis Roland, et qui pas très présent dans les communications de cet après-midi, mais qui est assez fascinant, je crois, c'est la façon dont les mutins utilisent les rites de l'armée contre elles-mêmes et comment ils peuvent mélanger ce jeu sur les rites de l'armée et même des accès de ce qu'on peut appeler de violence verbale, insultes ou de violence physique. Mais en même temps, il y a beaucoup de mutineries qui sont très organisées au sens où les mutins marchent en colonne couvrée, en rempart 4, posent leurs sacs et ne bougent pas, mais restent immobiles. Mais tout ça de façon extrêmement disciplinée, et ces jeux-là, sur les codes de l'armée, me semblent extrêmement importants pour comprendre à partir de quand une mutinerie devient effectivement un mouvement collectif. Alors, ce n'est pas du tout le cas de tous les événements qu'on appelle mutinerie, et c'est un des problèmes, on y reviendra demain, du comptage de ces événements et de ce qu'on met dans un même ensemble. Mais je crois que cette question-là de l'utilisation des rites de l'armée contre elle-même est extrêmement importante et pourrait encore donner lieu à des travaux intéressants.
Merci. Mon intervention est très courte parce que je partage tout à fait ce que vous dites sur les formes et je partage ce que dit André Leu sur la nécessité de ne pas réduire à une seule signification le sens des mutineries, mais de ne pas se dispenser d'en observer les formes. Alors je vais vous parler encore de la gendarmerie, excusez-moi, mais la seule expérience de 95% des gendarmes de 1917, 5% d'entre eux ont déjà fait campagne, notamment campagne coloniale, 95% des autres, pour seul bagage référentiel face à un mouvement important, c'est les grèves. Ils ont tous, à de très nombreuses reprises, participé aux grèves du midi viticole, aux grèves de Courrières en 1906, aux grèves de Champagne en 1911, etc., etc. Et pourquoi est-ce qu'on a créé en quelques jours ces sections, ces pelotons mobiles qui ont assez bien fonctionné vis-à-vis des mutins? C'est parce qu'ils étaient dans les cartons d'avant-guerre. La représentation nationale n'avait jamais voulu autoriser la création d'une gendarmerie mobile, mais en 1906, en 1907, en 1911, à chaque grand mouvement social, on a proposé la création de ces pelotons, et on les a ressortis en 1917 face à un mouvement dont les formes évoquaient, pour les gendarmes et pour les responsables politiques, des mouvements sociaux.
En ce qui concerne la question des mutineries de 1917 comme une grève ou un mouvement social, je crois qu'on a tendance à le penser, enfin, dans les discussions, par rapport à nos propres catégories d'analyse de ces phénomènes. Et je crois que ça serait intéressant de prendre en compte la façon dont les contemporains définissaient eux-mêmes ce qui s'est passé en 1917, parce qu'il me semble que dans beaucoup de témoignages, le terme de grève apparaît alors même que les civils en particulier n'ont pas encore les explications sur les facteurs qui ont poussé les soldats à cesser en fait de faire ce qu'ils étaient en train de faire, et le terme de grève, il apparaît au sens premier de cesser le travail, avant que la question des revendications, c'est-à-dire cesser le travail pour obtenir quelque chose, se pose même, et ça, le terme apparaît dans des témoignages, et on a tendance peut-être à vouloir mettre un sens qui n'avait pas forcément pour les contemporains à l'époque, et c'est vrai que bien souvent, tant pour les civils que dans les discours combattants eux-mêmes, c'est vrai que les soldats sont fréquemment assimilés à des travailleurs. Il y a, en termes de rhétorique, on trouve beaucoup de choses qui sont, il y a beaucoup de passerelles linguistiques tout au long de la guerre, et pas seulement en 1917. Et je crois que c'est important de revenir à la façon dont eux-mêmes pensaient ces catégories et ont pensé à l'époque le mouvement de révolte. Et je remarque que Jean-Louis Robert, qui a lancé le débat, profite de tout ce qu'on a à dire dessus pour ne pas répondre.
Juste une petite remarque. On parle des mutins et on parle des non-mutins, mais parmi les non-mutins, bon, évidemment, il y a les spectateurs dont on a mentionné, les spectateurs qui s'identifient avec les mutins, même s'ils ne font rien. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi mentionner des combattants qui étaient contre les actes de leurs camarades. Et puis on a parlé ici, en fait, vous parlez, le résumé du président a évoqué le 129e régiment d'infanterie, et selon la communication sur les rumeurs, on a parlé de 30 mai, donc j'imagine que on évoque ici un cas très particulier. Et pour le 129e régiment, c'est un régiment, en fait, l'étude de ce régiment, c'est fascinant pour l'historien, puisque les archives conservent un tas de documents qu'il ne faut pas aller même chercher, c'est un dossier tout prêt, tout est là, et là on trouve non seulement les rapports de contrôle, on trouve aussi des documents qui citent des combattants qui refusent ces actes. Donc on trouve des documents qui, bon, d'un côté ce sont des documents, des lettres citées où les soldats dénoncent les mutins parce que, voilà, ils ont des sanctions militaires, pas de correspondance, pas des permissions. D'autres, ils se plaignent pour la perte de la réputation de leur régiment. Il faut rappeler que le 129e régiment, il était bien connu, bien réputé grâce au combat à Verdun. Donc voilà, là aussi il y a il dénonce les actes des mutins, ou bien il y a vraiment des documents trop patriotiques. C'est étonnant, même après tout ce qu'ils ont passé, donc il y a encore des soldats qui disent on va faire notre devoir, nous on va aller jusqu'au bout. Et dernière remarque, ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est qu'il y a des citations, des lettres qui viennent de l'arrière. Et ce sont des documents qu'on trouve assez rarement. Des lettres de l'arrière destinées aux membres de 129e régiment. Et là aussi, il y a les proches dénoncent ce qui s'est passé dans le régiment. Ils écrivent « On espère bien que vous n'êtes pas parmi ceux qui ont fait la révolte. Vous devez faire votre devoir pour la France, etc. » Donc, il faut aussi prendre en considération qu'il y a eu aussi des soldats qui ont dénoncé ces actes. Il n'y a pas uniquement la sympathie. Merci.
Par hasard, j'ai le micro, donc est-ce que je peux ajouter deux, trois, comme ça, des remarques supplémentaires justement sur cette question effectivement passionnante de ces mouvements sociaux. Est-ce que ce sont des grèves? Qu'est-ce que c'est une mutinerie? Je pense qu'effectivement, il ne faudrait pas avoir des définitions trop nettes, trop dressées, parce que nous avons affaire à des situations anormales et très complexes. Mais il me semble que, d'abord, d'autre part, que c'est très important, comme vient de dire Emmanuel Cronier, d'entrer, de reconstruire la subjectivité sociale de l'époque. Il me semble que dans l'esprit de beaucoup des mutins, l'idée de grève est là parce que finalement, il y a mille fois de faire mille façons de faire des mutineries, mais là, précisément, on retire la puissance travail pour obtenir quelque chose. Et donc ça, c'est une pratique ancrée dans la pratique des grèves. En plus, il y a bien sûr, ça c'est très connu, les chansons qui sont chantées, les gestes collectifs, quand justement cette marge réduite individuelle en bas de l'échelle se convertit en réaction collective. Quels sont les apports culturels à portée de main? Évidemment, c'est la grève, c'est l'habitude de la grève, les gestes des grèves, les chansons des grèves, etc. Et en plus, évidemment, le terme même grève militaire est là, comme on vient de le dire, mais j'ajouterai le cas de 1912, où il y a plusieurs manifestations contre le prolongement du service militaire de 2 ans à 3 ans, en cas d'urgence par le gouvernement. Il y a des manifestations qui sont dénoncées comme des grèves militaires à l'époque. Donc il me semble qu'il y a de la grève, disons, là-dedans. Mais André a parfaitement raison, l'enjeu n'est pas normal, parce qu'évidemment, l'enjeu d'une grève militaire n'est pas celle d'une grève civile. Mais l'enjeu d'une grève civile en temps de guerre n'est pas la même chose non plus qu'une grève civile en temps de paix. Et évidemment, à partir de janvier 1917, c'est illégal de faire la grève dans les industries de guerre. Donc, beaucoup des grèves civiles sont justement des grèves illégales. Et la question que je me pose, est-ce qu'on ne pouvait pas, dans ce rapport entre les deux phénomènes, faire des liens? Alors, Emmanuel Crunier a dit que, et ça c'est très intéressant, qu'on retrouve peu de soldats dans les grèves à Paris. Mais je sais que quand on voit dans les rapports de préfets de mai-juin 1917, et notamment la grande série de rapports que Malvy, ministre de l'Intérieur, a commandé, justement pour faire face aux accusations des généraux, beaucoup des préfets disent qu'à la fois par les permissions et par la correspondance des soldats, les civils sont parfaitement au courant, et c'est ce que vous venez de dire, les civils sont parfaitement au courant de ce qui s'est passé sur le front au moment de l'offensive Nivelle. Et donc, tout de suite après, ce sont les grèves qui ont leur but précis, mais qui en arrière-fond ont peut-être aussi cette idée que c'est une sorte de protestation contre ce qui se passe sur le front. Donc, dans une certaine mesure, je pense qu'on peut relier, pas complètement identifié, mais relié ces deux formes de protestation sociale pendant le printemps et l'été de 1917.
Arnaud Vaquet, je travaille en histoire du sport, donc je vais peut-être vous surprendre en fait, et je voudrais ouvrir sur un sujet et faire le lien avec ce dont on a parlé ce matin, entre le commandement, la crise du commandement et les mutineries. Donc bien sûr, je voudrais prolonger un peu l'objet de M. Bach sur l'amélioration de la vie des soldats. Et donc sur cette crise du commandement et la crise du moral. En fait, je suis ici pour ouvrir sur le sport, car c'est un sujet qui, dans l'histoire française, est naissant, mais pour les Anglais, en fait, dès qu'il y a eu mutinerie, par exemple, à Étaples, il y a eu aussi utilisation du sport pour régler justement cette crise du moral et cette crise de confiance. Et je retrouve, et dernièrement j'ai retrouvé donc dans les archives militaires du Chat, une lettre de M. Painlevé, donc un ordre direct pour le directeur de l'infanterie, pour l'utilisation du sport dans le règlement de la crise du moral et pour le confort physique des soldats. Donc je fais juste une ouverture pour les spécialistes, pour reconsidérer justement la place du sport dans l'armée française, dans le règlement de la crise des mutineries. Et donc c'est justement, c'est aussi pourquoi je suis là, c'est pour avoir des informations. Donc toute personne qui a des informations sur le sport, je suis preneur. Merci.
Je suis devenu agnostique, ce qui est le mot juste pour décrire les mutineries, mais je peux expliquer pourquoi j'ai toujours résisté le terme de grève, parce qu'il me semble que le moment où l'ordre, l'autorité militaire soit refusée, c'est un nouveau jeu, tout à fait. Et il n'y a pas de scénario qui peut prévoir ce qui se passera. Et donc c'est tout. Vous avez la parole? Okay.
Juste quelques secondes. Pour redémarrer sur la deuxième question que j'avais posé une question sur le mouvement social. La première question que j'avais posée, j'ai essayé de formuler des hypothèses probablement de manière assez naïve, mais sur l'absence des sergents-chefs, adjudants-chefs. C'est très naïf de le présenter sur ce registre-là, mais j'aimerais savoir tout simplement pourquoi toute cette gradation institutionnelle est absente de tous les papiers. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est lié à une histoire historiographique? Est-ce que c'est lié au fait qu'il y a des problèmes de sources qui font qu'on n'accède pas au pouvoir des adjudants-chefs, etc. Est-ce que c'est normal, tout simplement?
Bon, je veux juste dire deux mots, parce que je voudrais surtout pas qu'il y ait la moindre confusion. D'abord une remarque sur le terme grève et puis par rapport à ce qu'a dit Emmanuel Crunier aussi. Il y a le langage de l'époque. On est d'accord, mais le langage de l'époque, à mon avis pour l'histoire, c'est un des critères. C'est un des critères culturels d'un phénomène. Hein, donc, évidemment, on doit apprendre. Si on trouve des textes dans des journaux de combattants ou dans des lettres, etc., on a fait la grève on a posé le fusil par terre et puis qu'on trouve, on a fait la grève, ça a été la grève des poilus, etc., ça prend un sens. Ça prend un sens qui est le sens des mots. Ce n'est pas pour autant que nous, on est tenu comme historien de reprendre toujours, parce qu'à ce moment-là, où va-t-on aller, hein, on va dire, bah, tous les mots qui circulent, partout, acteur, etc., c'est la bonne... l'historien n'a plus une grande valeur ajoutée, il n'a qu'à rajouter des textes, et vous voyez, là ils disent que c'est comme ça, et c'est comme ça. Donc je crois qu'effectivement c'est un critère culturel absolument essentiel qu'il se soit dénommé, et effectivement j'ai lu des textes hein, de ce sens, qu'il se soit dénommé et qu'il s'est parlé de grève. Ça signifie quelque chose dont il faut bien prendre conscience et qui fait que nous ne pouvons pas le refuser complètement. Mais on ne peut pas en faire seulement à l'argument d'une grève. Alors, la deuxième remarque que je veux faire, et après je conclue rapidement sur ce que je voulais dire, le colloque pose la question d'obéir et désobéir en guerre. Et alors, ce matin, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que obéir et désobéir en guerre, et cet après-midi, c'est un peu la même chose sur les mutinés, ça ne semble concerner que les militaires. Ce sont que des soldats, des divisions, qui seraient conduits à obéir ou à désobéir. Alors, donc déjà, effectivement, nous circonstancions l'idée, malgré tout, dans cet ensemble de toute la première journée, c'est un petit peu différent demain, mais il y a bien une spécificité de la désobéissance militaire et de sa forme plus grave, qui est la mutinerie, par ce biais-là. Je rappelle cependant qu'il n'y a pas eu que des militaires exécutés pendant la Première Guerre mondiale, hein, puisqu'évidemment, par exemple, un délit qui est une forme de... désobéissance, qui est l'espionnage, est également susceptible de condamnation à mort et peut fonctionner et fonctionne. Donc, évidemment, ce n'est pas une résistance à la guerre, c'est quelque chose de très particulier, mais bon, il peut y revenir. En tout cas, il y a des phénomènes de désobéissance aussi chez les civils. Et là, il y a donc effectivement tout un continuum, puisqu'on a des militaires à l'arrière, on a, moi c'est ce que je connais le mieux, des militaires affectés avec comme militaires, comme ouvriers, qui ont donc tenu à respecter un certain nombre, mais qui ont des spécificités de civils, et on a des civils qui sont tenus à respecter le couvre-feu, qui sont tenus à Paris à rentrer avant certaines heures parce que les portes de la capitale sont fermées et que si vous essayez de passer les fortifications après une certaine heure, eh bien ce qui peut arriver, parce que vous avez bu plus qu'il n'aurait fallu, et vous voulez quand même rentrer chez vous, si vous habitez en banlieue, vous allez prendre vous allez vous situer dans une situation illégale. Il y a aussi un illégalisme et toute une gamme de situations comme toutes celles qu'on a vues qui vont de la résistance, la désobéissance collective à des actes individuels. De là, moi, mon sentiment personnel sur cette propre période, je crois que il ne faut plus étudier les mutineries de 1917. Elles ont été déjà, je suis désolé par rapport au colloque, il faut toujours faire un petit peu de provocation sur la journée sur laquelle on a rapporté. Il faut étudier le mouvement social de 1917. Avant et arrière. Il est temps. Il est temps d'y arriver. On a fait pendant 20 ans, moi je fais partie de cela, je vais battre ma coulpe, l'histoire de l'arrière sans les soldats. Je sais de l'histoire économique et sociale de ça. Je voyais un peu le front, je disais, oui, ça compte quand même, hein, je les vois arriver, je vois comment ça réagit. Hein. Mais bon, hein, il y avait tous ces trucs passionnants, les laboratoires sociaux, l'économie d'hier, comment ça se fonctionnait, etc. Bon, puis après, on n'a plus que des soldats, ça, hein, que des mutineries. Obéir, et puis ça s'appelle quand même pas, ça s'appelle en guerre, pendant la guerre, c'est l'ensemble de la... Donc, pour moi, je suis d'accord sur un terme maintenant qui serait qu'il y a un grand, quelque chose qui est de l'ordre d'un mouvement social, ou de mouvements sociaux, parce qu'effectivement, ce dégradé de choses qu'on a vues avec toutes ces nuances et ces subtilités, me conduit à penser qu'il y a effectivement quelque chose qui ressort de mouvements sociaux en France, dans la complexité de cette situation de guerre, d'une extrême variabilité des circulations, des institutions et des types de mouvements plausibles en 1917, qui va de ces mutineries à ce que moi j'avais vu, qui est quand même en 1917, la plus grande grève ouvrière, la grève de 1917 est beaucoup plus puissante à Paris que toutes les grèves avant 1914. C'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. La grève de mai juin 17 à Paris, c'est beaucoup plus fort que les mouvements de 1906 et de 1910. Ça ne se compare pas en termes de nombre de forces mobilisées. Mais c'est très divers aussi, comme on l'a dit. Dans la grève de 17, il y a des midinettes qui sont très loin du pacifisme. Il y a des munitionnettes qui elles, crient la paix. La paix. Donc, cette gamme de types que nous avons commencé à développer ce matin, à mon avis, on l'enrichirait en maintenant élargissant la perspective, puisqu'on dit qu'on veut faire une histoire sociale de la guerre, où le front et l'arrière pourraient commencer à être évoqués ensemble. Voilà ce que je voulais dire.
Encore deux interventions.
Moi, j'aurais une question concernant la gendarmerie et les relations qu'elle pouvait avoir donc avec les mutins, voire les fusillés. Quelles étaient justement ces relations-là? Est-ce que c'était plutôt une relation de criminels arrêtés par des forces de l'ordre, ou est-ce que c'était plutôt des soldats arrêtés par des gendarmes, voire des gens qu'ils connaissaient?
Alors une réponse très rapide et une question considérable, c'est extrêmement compliqué et c'est extrêmement variable. Très simplement, au début de la guerre, on a levé les armées de façon régionale et on a levé les prévôtés qui étaient envoyés avec ces armées de façon régionale également. Chacun connaît le caporal Moulia, bon, ben, il sert dans la 36e division. Dans la 36e division, qui est levée dans les Landes et dans les Basses-Pyrénées, on a aussi levé des gendarmes, dont un certain maréchal des logis-chefs, Moulia. Bon, forcément, quand on lève des troupes sur un département, les gens se connaissent depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il en est des rapports entre les prévenus, les détenus d'ailleurs de la prison prévôtale et les gendarmes? Est-ce qu'on est entre camarades sous un même statut militaire? Est-ce qu'on est de part et d'autre de la barrière? Alors, il faut pour ça, et je suis en train de le faire l'histoire de la prison prévôtale, parce qu'il y a énormément de choses qui s'y nouent. Il y a des suicides assistés, et il y a des punitions pour ça, pour éviter précisément le déshonneur du conseil de guerre et éventuellement la condamnation à mort. Il y a des évasions suspectes. Bon, c'est de l'infra-documentaire, c'est très difficile de savoir si ce sont des aides à l'évasion ou si ce sont des évasions fortuites. Il y a également des circulaires du commandement qui reprochent aux gendarmes dès 1914 d'être ridiculement popotiers avec les détenus. Mais il y a aussi des gendarmes punis pour dureté, mauvais traitement sur les soldats. Et puis, comme je l'ai dit, il y a, au cours de la guerre, l'idée que les gendarmes sont des embusqués, ce ne sont pas des camarades pour les soldats. Et donc, on ne peut pas... Enfin, il y a une... une opposition, jusque d'ailleurs à des assassinats entre les deux catégories. On ne peut pas répondre en quelques phrases, mais dans la mesure où ça explique les regards réciproques dans ce face-à-face, j'en ai prévenu, c'est un élément essentiel du dossier.
Merci. Juste trois petites remarques à propos du terme de grève et de mutinerie. Moi, il me semble que l'armée ne s'y est pas trompée, elle a bien appelé ça des mutineries. Pour elle, c'est une mutinerie. Pour l'institution, on parlait de l'institution, ce sont des mutineries. Est-ce que dans un autre contexte, un contexte civil, est-ce qu'on appelle certaines grèves des mutineries ? Dans les prisons, mais bon, voilà, absolument. Bien. Oui ? Je pense que des grèves peuvent devenir des insurrections, mais assez rarement quand même des mutineries. Bon. Un deuxième point, juste très rapidement aussi, concernant la répression. Très souvent, en tout cas dans de très nombreux ouvrages, on se focalise la répression, on la réduit en fait au nombre de fusillés. C'est totalement, à mon sens, c'est une grande erreur, parce que la répression, ça commence dès le regard courroucé de l'officier face à un homme qui hésite à obéir. La répression, elle commence là, et elle peut se terminer au poteau, et avec toute une gradation de peine et de châtiment. Enfin, un troisième mot, et là, en réponse à Jean-Louis Robert, effectivement, désobéir, obéir, ça concerne aussi l'arrière et les civils, on y a bien pensé. Et lors de l'appel à communication, on a reçu beaucoup de propositions dans ce sens-là, et on a été donc submergé. D'où la... c'est tout simple. Donc on est bien conscient de ça, mais ce sera l'objet d'un futur colloque, assurément. Voilà. Merci. André. Pour 30 secondes.
Monsieur le vice-président, comme dans certaines mutineries, on dit je t'emmerde, vous voyez, comme c'est dingue. Pardon, excusez-moi. Bon, premier problème, la question qui est posée de savoir, les sous-officiers n'ont pas marché. Ça a été une crainte du commandement. Hein. Il faut savoir qu'il y a eu de grosses enquêtes pour essayer de savoir, parce qu'il y a des mythes sur des aspirants qui auraient fonctionné avec. Une grosse enquête a été faite. Parce que c'est vrai que si la structure intermédiaire se met en route, ça c'est un problème. On connaît bien le problème des gendarmes. Les gendarmes savent le faire. Vous avez vu la dernière fois, quand vous avez des sous-officiers de gendarmerie qui prennent tout le commandement, les officiers sont complètement sortis du système et sans besoin de syndicat, ils obtiennent un résultat. Donc c'est ce qui s'est vu dans les soviets aussi. Ce sont des structures intermédiaires qui ont la transmission entre eux, et dans ces cas-là, c'est fini, il n'y a plus d'autorité, elle est vidée. Alors ça, c'était assez dangereux. Mais ça ne s'est pas produit. Mais comme c'était noté dans ma communication, dès le début, Pétain a dit qu'il ne fallait surtout pas déléguer, parce que c'est ça le problème. Et là, si la question russe se mettait en place, il répondait de rien. Il a dit, je ne réponds de rien s'il se passe une affaire comme ça, et si, et c'est là où effectivement on en revient aussi à l'idée que Pétain a joué sur le pouvoir politique, si vous faites ça, il ne faut pas aller à Stockholm aussi. Et ce qu'a répondu Bainlevé, ce qu'a répondu le président Poincaré quand on en a parlé dans les autres, ils ont dit, le général Pétain ne veut pas. Et ça a été arrêté au niveau du Parlement. Donc là, il y a une intrusion du militaire qui, sur cette question-là, il en faisait un point de quitter son tipi si jamais on est à Stockholm et le pouvoir politique a accepté. Il faut le savoir. Le deuxième point, c'est ce que disait sur le plan de... Les soldats n'étaient pas tous d'accord dessus. À mon avis, c'est le cas particulier français, qui est le cas républicain, qui est l'exception républicaine. C'est le seul armée, à ma connaissance, où il y a des débats internes à l'intérieur des services, à l'intérieur de l'armée. Et les gens se disent qu'ils discutent. Alors là je vais caricaturer. Vous avez encore une grande partie de la population, plus que ce qu'on croit, qui est christianisée, qui écoute l'Église. Et donc c'est un système d'obéissance au commandement, et ils sont totalement réticents contre ceux qui, je dirais, sont des radicaux, ou radicaux socialistes. Et le point a été donné déjà ce matin, le point d'échappement, c'est l'anticléricalisme. Et il y a un vrai débat là-dessus. Sachant qu'en plus, beaucoup d'officiers, colonels ou autres, font des messes et tout directement, et c'est dénoncé par les autres. On a vu le cas, c'est Barthas, le capitaine Dudel, qui lui est socialiste, et systématiquement, enfin lui, pour une fois, empêche les soldats d'aller à une messe le dimanche. Les soldats font une pétition parce qu'ils savent qu'ils sont appuyés par le colonel. et ils n'hésitent pas à le faire, et en sachant qu'ils vont gagner. Donc il y a un vrai débat à l'intérieur, et ce débat va se retrouver au moment des mutineries, quoi. Il y a effectivement des gros débats entre soldats, certains qui disent patriotes, notamment dans l'esprit chrétien, souffrance et tout, ça existe, surtout dans les milieux paysans. Alors, il y a des régions, si vous voulez, durant cette période, où dans les provinces, il n'y a pas le journal, il n'y a pas des journaux critiques, ce sont des journaux catholiques. Parce que ce sont les seuls qui sont abonnés et les familles ne reçoivent que ça. Et donc, ce côté-là joue et j'ai des débats internes très forts. D'une certaine manière, ceux qui parlent, fatalement vu leur statut qu'a présenté André Loez, ce sont des gens qui sont de l'optique radicale. Et je dirais d'une certaine manière, par rapport à Soboul, que j'avais comme professeur à l'époque, ça montre que les critiques n'iront pas trop loin. C'est la liberté, égalité, propriété. Il n'y a pas de collectivisme derrière. Il y a l'idée simplement qu'il y a les petits et les gros, et qu'eux ne sont pas à leur place, et qu'il y a des gens qui n'ont pas l'égalité de traitement. Là, vous êtes dans le radicalisme, et ce n'est pas étonnant du tout que le radicalisme, sa grande période, c'est 1910, 1906, 1910. Il est logique que dans un continuum, il y a un raisonnement. Et dans le radicalisme, il y a l'idée qu'on peut parler aux gros. Eh bien là, il parle au commandement, et pour beaucoup de gens qui sont là-dedans dans les grèves, ils ne pensent pas que ce qu'ils font est illégal. Ils ne sont pas dans l'égalité, ils ne sont pas contre la discipline. Ils réclament leurs droits. Et dans leurs droits, donc c'est là où le côté disciplinaire, donc, ça s'affadit, c'est leurs droits. Et a priori, ils disent toujours, mais nous, on n'est pas des mutins, certains disent, mais simplement, nos droits, le Parlement nous a donné tous les droits des permissions, on les veut.